Les défis de la transition énergétique. Une émission proposée par FEDExpert sur Radio Immo.
Bonjour les amis et merci d'être avec nous pour ce premier numéro des défis de la transition énergétique, une collection que nous lançons avec nos amis de FEDExpert, une des premières organisations pour justement essayer de rétablir l'équilibre avec le diagnostic de performance énergétique, un sujet extrêmement vaste. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Débat sur ce chantier du siècle avec des enjeux majeurs, alors des enjeux bien évidemment pour la planète, mais également pour le pouvoir d'achat des Français. On parle d'ailleurs du chantier du siècle. On va décrypter tous ces sujets avec nos experts. On va commencer, si vous voulez bien, les amis, avec un focus sur le contexte, sur les enjeux majeurs. On va parler de ces chiffres avec Assad El-Ayachmoueb, qui est avec nous, le président de FEDExpert. Bonjour, Assad.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes entre, bien évidemment, représentant de cette organisation en France, mais aussi en Europe. Et vous êtes porte-parole et ambassadeur de FEDExpert France. Je rappelle que vous êtes l'unique fédération indépendante qui regroupe les acteurs de l'efficacité énergétique et du contrôle technique du bâti. C'est important de le rappeler. Vous nous présenterez, si vous voulez bien, votre organisation. On fera un point ensuite sur le DPE. Voilà, gros sujet sur le diagnostic de performance énergétique, un peu la dent creuse. Hein. On en parle en permanence, l'actualité, les enjeux. On va interroger le président Loïc Quentin, première organisation patronale de l'immobilier qui est avec nous. Loïc Quentin, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci de nous faire l'honneur d'être présent. Vous êtes donc président de l'AFNIM, un grand monsieur également de l'immobilier. C'est important qu'il soit avec nous, c'est un grand spécialiste du syndic de copropriété de l'administration de biens. Il est le président de l'UNIS du Grand Paris. Bonjour Olivier Sapard.
Bonjour Sylvain. Merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Gros sujet, bien évidemment, avec les enjeux de la performance énergétique. Il nous fallait également des élus de la nation. On va pas bouder notre plaisir, puisqu'on a quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet du logement, mais pas que, de l'immobilier en général. Il a exercé avec des fonctions de maire. Il est élu et député de la deuxième... député des Landes, il est avec nous, pardon, c'est Lionel Causse, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Lionel? Je suis ravi de
très,
te voir.
Très bien, c'est bien la deuxième circonscription des Landes.
Voilà, la deuxième circonscription des Landes. Voilà, je comprenais que la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, puisque nous allons avoir un message de Daniel Labaronne, qui est en charge justement du rapport, dans le but, on va en parler d'ailleurs, de créer... ou d'organiser, peut-être, c'est possible, un ordre des diagnostiqueurs. D'ailleurs, nous aurons également Jean-Philippe Dugoin-Clément, le vice-président de la région Île-de-France, qui est en charge du logement, gros dossier, pour un cinquième de la population française. Il est le patron de Grand Paris Aménagement. Il est le grand patron également de l'établissement public foncier d'Île-de-France, un des plus gros organisateurs fonciers publics. Il est également le maire de Mennecy. Il sera avec nous. Il sera en duplex. On a enregistré quelques mots très importants. Il nous fallait également le rapport, le raisonnement, l'avis, l'opinion d'un financeur. On a la filiale du Crédit Agricole, qui est une des plus grosses banques d'Europe, avec la marque Sofinco Eco Transition. Nous aurons un mot de Laurent Permas qui nous parlera du financement. Un casting important pour ce premier numéro. C'est une première collection. On est ravis et merci de la confiance que nous a témoigné FEDExpert dans cet accompagnement. L'idée, c'est de restaurer la confiance et de dire que la rénovation énergétique est un enjeu majeur et que vous, ce qu'on appelle les DPistes ou ceux qui actionniez aujourd'hui ce qui va aboutir à des travaux, on doit avoir un cadre de confiance avec de l'excellence professionnelle. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Voilà, pour ce numéro, c'est parti pour le contexte.
Les défis de la transition énergétique, FEDExpert.
Le DPE a été érigé comme un outil central de la politique de rénovation énergétique française. Il détermine une note de performance, il y en a 7 sur le logement, que ce soit à l'achat ou à la location. Il est désormais scruté par les particuliers et influe directement sur la qualité du logement. Assad.
Effectivement, il est scruté par les particuliers, mais ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a un manque d'information vis-à-vis du DPE et de ses origines notamment. Il faut savoir que le DPE, ce n'est pas uniquement une étiquette qui est apparue du jour au lendemain sur nos maisons et qui détermine si oui ou non on a le droit de la louer ou si on va effectivement appliquer une décote si elle est passoire thermique. Le DPE, il a été créé il y a presque 20 ans maintenant. Et il a été créé sur la base des accords de Rio et du protocole de Kyoto. Et d'un point de vue plus national, suite au Grenelle de l'environnement qui nous a obligés de faire des efforts. Et parmi les efforts à faire, il était question de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans plusieurs secteurs d'activité qui ont été nommés comme responsables de fortes émissions. Hein, et parmi ces secteurs, il y avait le bâtiment qui était accusé à l'époque de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il n'y avait pas que le bâtiment, il y avait également le transport et l'industrie. Mais aujourd'hui, c'est le bâtiment qui nous intéresse. Donc on va parler du bâtiment. Et il fallait démontrer au niveau européen et international qu'il fallait faire des efforts pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc durant ce Grenelle de l'environnement, on a créé le DPE pour nos logements. À la base, c'était uniquement informatif, c'était une étiquette énergétique qui donnait une indication à l'acheteur, puis après au locataire, parce qu'il a été obligatoire uniquement à la vente au départ, puis par après à la location, une orientation sur la consommation avec une étiquette à l'image de ce qui était fait sur les appareils électroménagers. Donc, il ne fallait pas perdre l'opinion publique, il fallait rester cohérent. Donc, il y avait cette étiquette et une consommation chiffrée qui donnait vraiment, à titre très indicatif, la consommation éventuelle. Puis, le DPE a évolué jusqu'à aujourd'hui où le DPE, s'il est classé F ou G, présente certaines obligations. Donc, aujourd'hui, ce rappel, il est très important. Parce que la majorité de l'opinion publique a appris l'existence du DPE il y a 6 mois à 1 an, alors que ça fait presque maintenant 20 ans qu'il existe.
Alors, c'est intéressant parce que je voudrais que vous nous parliez de ce rapport de la Cour des comptes, qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qu'il dit en substance ?
Alors, en substance, il ne dit pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il répète exactement ce que la ministre Valérie Létard a soulevé lors de sa réunion choc avec toutes les parties prenantes.
Parce que le rapport, quand même, parle de l'avenir incertain du DPE, des problématiques de fiabilité, de manque de concertation. C'est pas un rapport, on va dire, c'est un rapport qui alerte, en quelque
c'est
sorte.
C'est un rapport qui est accablant pour la profession, mais il ne faut pas oublier que c'est l'État qui a créé les diagnostiqueurs immobiliers. Or, lorsque la Cour des comptes fait son discours, on a l'impression que tous les maux autour du DPE sont de la faute du diagnostiqueur. Or, il y a un élément majeur que peu de gens relèvent, c'est les soucis liés au moteur de calcul lui-même. Et ce souci lié à ce moteur de calcul, on ne peut pas l'imputer au diagnostiqueur. C'est-à-dire que le diagnostiqueur a certaines responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a des textes réglementaires qui lui imposent des choses et ils ne sont pas toujours suivis parce qu'il n'y a pas d'autorité derrière avec des prérogatives pour vraiment assurer ce suivi, mais il n'est pas seul responsable. C'est-à-dire que lorsqu'on a pléthore de valeurs par défaut dans le logiciel, ce n'est déjà pas normal. Lorsque sur un même bien, on applique les mêmes paramètres et qu'on a des étiquettes différentes, ce n'est pas normal.
Alors, qu'on comprenne bien, on en parlera d'ailleurs avec vous, messieurs, tout à l'heure. Ce logiciel, ce n'est pas vous qui l'avez mis en place, c'est le gouvernement.
Tout à fait.
Hein, c'est un outil public. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous aviez été concerté dans la construction de cet outil ?
Alors, dès le départ, les organisations professionnelles du diagnostic immobilier ont été consultées et le sont encore.
Ça paraît logique.
Ça paraît logique, mais ils ne sont pas la majorité dans les décisions. Ils ne représentent pas la majorité dans les décisions.
Alors, à quoi vous attribuez les erreurs du mode de calcul de la première version du DPE ? Dont Emmanuel Wargon, qui était aux affaires à l'époque, avait dit, oui, effectivement, on a des problèmes de calcul, puisque ça n'intégrait pas les éléments matériaux d'avant 1975, notamment. Et donc, il y a eu 80 000 DPE qui étaient finalement faussés, et qu'elle s'est engagée, d'ailleurs, à faire renouveler. Vous en souvenez ?
Oui, c'est lié au temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le temps de développer un logiciel fiable. C'est-à-dire que c'est ce que je disais en liminaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours réagir dans l'urgence, à chaque fois qu'il y a des associations de consommateurs qui fustigent les diagnostiqueurs ou le DPE en lui-même, il faut une réaction immédiate. Or, quand on a un moteur de calcul aussi complexe que celui du DPE, on ne peut pas réagir en une semaine, en 2 mois, en 6 mois. Il faut vraiment du temps. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. C'est-à-dire qu'il fallait absolument réagir, et très vite, parce qu'il y avait l'incendie des associations de consommateurs, à juste titre. Mais il faut se donner le temps, et c'est ce qu'on n'avait pas.
Réagir et réguler de manière objective et indépendante, parce que vous dites également qu'il ne faut pas stigmatiser injustement toute la profession. C'est ce que vous dites en sous-jacent. Et vous avez raison, puisque les erreurs de calcul, très franchement, d'ailleurs, je vais vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, le patron qui était en charge du dossier, vous savez, du DPE et du moteur de calcul, vous vous rappelez, il a été limogé 6 mois après, puisqu'effectivement, les erreurs étaient telles qu'à un moment donné, ça devenait pas croyable. C'est parce que ce n'est pas croyable ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, Loïc Quentin, les méli-mélos de ce fameux DPE, la première version du DPE qui avait été vantée, Et vous avez été d'ailleurs l'un des premiers, avec les organisations patronales, à alerter sur les défauts majeurs, notamment
rembourser les DPE.
Sur les petites surfaces, et puis des DPE qui étaient complètement ahurissants. Je vais donner quelques chiffres. Donc l'outil a été créé en 2006, pour être très clair. 350 000 diagnostics versus 120 000 au mois en 2018. 350 000 diagnostics. Le nombre de diagnostiqueurs a augmenté de 46%. Vous confirmez entre 2019 et 2023. Il y a 5,5 millions, on n'est pas toujours d'accord sur les chiffres de passoires thermiques en France. Alors moi, j'ai envie de vous demander, les amis, avec ce que vient de nous dire très justement Assad sur les DPE, on va commencer par vous, Lionel Causse. Vous avez été président du Conseil national de l'habitat. Vous êtes très actif en tant que député sur le sujet logement, dont vous êtes un fin connaisseur. Première réaction sur à la fois le rapport de la Cour des comptes, qui est quand même... un peu dur à lire, tellement qu'il est accablant, et ce qu'il faudrait peut-être envisager avec cette mission dont vos collègues Labaronne a été chargé pour la mise en place d'un ordre.
Le rapport de la Cour des comptes était quelque part un peu attendu, parce qu'en effet, la ministre avait déjà pris les devants en lançant une réflexion globale sur l'évolution du DPE, sur l'évolution de la filière, l'organisation. Donc, je veux dire, c'est... Il a repris le travail, alors je ne sais pas qui a repris le travail des uns et des autres, peu importe, mais enfin en tout cas, ce que dit le ministère et la ministre, ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est à peu près identique. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Moi, j'entends ce qui vient d'être dit et je reconnais que c'est très compliqué quand on est élu, parce que quelque part, on veut que les choses fonctionnent. On a des services, y compris les services du ministère, qui sont là pour faire en sorte que les outils fonctionnent. Et c'est quand même un petit peu frustrant, au bout de quelques années, d'entendre la DHUP qui nous dit que le DPE est fiable, qu'il fonctionne, et des professionnels qui nous disent qu'ils ne sont pas suffisamment concertés et qu'ils ne fonctionnent pas, qu'il y a encore des problèmes. Je ne suis pas directement pour juger, mais enfin, je constate qu'il y a quand même un problème. Mon rêve, ça serait que tout le monde se mette autour de la table une bonne fois pour toutes pendant un certain nombre de jours et que quand tout le monde se met d'accord, on sorte un vrai DPE et que ce DPE soit aidé par tout le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas, dans un bureau, dans le ministère, considérer qu'on maîtrise tout, qu'on connaît tout, qu'on sait tout, et au-delà, effectivement, des diagnostiqueurs. Donc moi, j'en appelle quand même sérieusement à ce que les uns et les autres arrivent à se mettre autour de la table et à ce qu'on arrive à avoir un outil le plus fiable possible. Il y a toujours des évolutions, parce que de toute façon, le DPE évoluera en fonction aussi de certaines circonstances et certaines choses, mais il faut que ce soit vraiment à la marge. On sait aussi, alors, parce que le moteur, quelque part, il fonctionne. On ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Il ne répond peut-être pas complètement aux attentes que l'on veut, mais il fonctionne.
La première version était catastrophique.
Je pense que derrière, on a un problème sur les logiciels de saisie. Je ne dis pas forcément la saisie du diagnostiqueur, mais les logiciels. Quand on vous demande de saisir des choses par défaut et que vous le faites, et que forcément, en fonction de ce que saisit le diagnostiqueur, la réponse peut être très différente, c'est là où on peut avoir aussi des incohérences sur le résultat du DPE. Je peux comprendre que sur certains matériaux, certains isolants, on peut mettre par défaut qu'on n'a pas la réponse, et forcément derrière, ça décline des notes sont très 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 différentes. Et quand un autre diagnostiqueur arrive derrière, s'il arrive à obtenir l'information, à aller voir quel est l'isolant qu'il y a derrière cette cloison, etc., il va peut-être le saisir, et forcément la note sera très différente. Là aussi, on a, je dirais, au niveau donc utilisation du logiciel, des choses à voir. Je pense qu'il faut aussi retravailler sur la finesse de saisie. Je ne dis pas du diagnostiqueur, j'ai la finesse que le logiciel demande et exige pour pouvoir calculer le DPE. Je pense que là-dessus, on a des choses à travailler et ça sera dans l'intérêt de tout le monde et ça évitera effectivement peut-être des gens qui travaillent différemment, qui saisissent en tout cas différemment. Après, sur la filière, donc... j'avais lancé dès janvier-février une réflexion, on va dire, sur l'évolution de cette filière en disant il faudra aller vers un ordre, mais en disant toujours, on s'était rencontré avec tous les acteurs en disant je demande un ordre dans mon courrier, mais je sais très bien qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément la solution, mais en tout cas ça a permis de mettre tout le monde autour de la table. Cette démarche a été reprise par la ministre, elle est très bonne, et c'est mon collègue Daniel Labaronne qui mène une mission pour la ministre. Moi, ma démarche, je rendrai en juillet mes propres propositions et synthèses de ce que j'ai vu. J'ai mis un petit peu plus de retard que prévu parce que je suis en train de regarder les organismes de certification et de formation que je rencontre en ce moment, donc voilà, pour essayer d'avoir avoir une vision un peu plus globale de toute, je dirais, l'organisation et comment
ça complète. Ça complète la réflexion du député de la Baronne.
Ça viendra compléter. Après, il utilisera ce que moi je verrai, ce que d'autres verront. Voilà, moi, je contribue. Vous savez, moi, je suis un élu, je suis là pour contribuer. C'est pas parce que j'ai un de mes collègues qui a une mission que je dois arrêter et laisser faire.
Non, mais c'est ça pas, sera non, la ma question. Lionel Causse, la question elle est plutôt de la coordination, de la pensée collective de chaque député. Vous allez tous, vous pédalez tous dans le même sens.
Ça a été convenu. De toute façon, j'étais lors de la présentation avec la ministre et c'est convenu directement avec le ministère que mon travail viendra bien entendu alimenter en fonction effectivement de l'avancée de la réflexion qu'aura aussi mon collègue Daniel Labaronne, des rencontres qu'il aura avec les uns et les autres. Il en prendra ce qu'il juge être utile. Voilà. Donc l'important, c'est qu'on arrive dès cet automne à pouvoir trouver, je dirais, une trajectoire d'organisation de cette filière. Mmh. Moi, je pense qu'il faut du temps. Je pense qu'on est sur une filière, même si elle a quasiment 20 ans, 19 ans aujourd'hui, puisqu'elle est de 2006. Il n'empêche que c'est depuis que c'est devenu quand même opposable en 2021, que les choses ont changé et que ça nécessite, une vision, une organisation peut-être beaucoup plus professionnelle, quelque part. Donc, je pense que l'État, en attendant que cette filière soit complètement en ordre de marche, on va dire ça comme ça, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est à l'État de vérifier, de valider que les organismes de certification, que les centres de formation, que les diagnostiqueurs, que le logiciel derrière DPE, que tout fonctionne bien. Et c'est à l'État de prendre le temps nécessaire pour réorganiser tout ça. Et après, dans un second temps, on verra si effectivement un ordre ou une organisation diverse et variée peut être mise en place. Mais je pense qu'aujourd'hui, la vision que j'ai, en tout cas, ma position aujourd'hui suite au travail que je mène, c'est plutôt de dire qu'il y a encore du travail à mener avec l'État, bien sûr, avec les organisations. Alors, le pire, c'est que l'État le fasse tout seul. Quand je dis l'État, c'est à l'État d'appuyer sur le bouton quand il faut signer les décisions, mais il faut que ceci se fasse avec
tous les acteurs. On va approfondir justement cette question qui est cruciale. Justement, Président Quentin, l'AFNAIM, vous avez été vent debout justement sur les anomalies de cette première version du DPE, rappelez-vous, c'était très compliqué. Position, première réaction, à la fois sur le rapport de la Cour des comptes du professionnel de l'immobilier que vous êtes, et également la réflexion que vous faites actuellement, également avec la FEDE, sur la question du diagnostic de performance énergétique.
Alors d'abord, sur le rapport de la Cour des comptes, nous sommes satisfaits, puisque nombre des préconisations au constat sont partagées par la Fédération, et que nous avons portées depuis 2 ans et demi. Notamment l'absence de concertation avec les professionnels, lier un critère d'indécence à un DPE, qui était une erreur, et la France a voulu être exemplaire, alors que les autres pays d'Europe ne l'imposent pas. Outre d'autres dispositions. Alors, sur le DPE lui-même, je crois que aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que on est face à un phénomène de massification importante. Puis il y a deux versions. Il y a le premier DPE qui existait avant la promulgation de la loi climat-résilience, qui était un DPE informatif, mais qui n'avait pas de conséquences sur la valorisation du bien. Or, le DPE nouvelle version a un rôle de sanction. On passe de F, de G en F ou en F ou en E, ça change tout. Ça change la donne, à la fois sur la possibilité de louer et à la fois sur la valeur verte du bien.
Absolument.
Et c'est là que tout le problème. Alors, c'est vrai que le Conseil d'analyse économique a identifié, a pointé du doigt des DPE de complaisance frauduleux. 1,6% de la masse totale des DPE délivrés.
On l'estime à 1,300 000 DPE frauduleux.
Il y a 4 millions de DPE délivrés par année, 350 000 par mois. Le Conseil d'analyse économique a pointé, via un algorithme de calcul, 1,6% de DPE frauduleux. C'est 50 à 60 000 DPE. C'est toujours trop. C'est peu et c'est toujours trop. C'est ce que dit Valérie Littard lors de la réunion, notamment avec tous les acteurs de la filiale. Mmh. Mais c'est encore trop. Le problème, c'est que l'algorithme définit bien, quand on lit le rapport de la Cour des comptes, on voit très bien à un moment, de G, on a une montée en puissance des DPE qui passent soudainement en F. Et à chaque borne, de F, on passe en E, et de E, on passe en D.
Là, par exemple, en début d'année, avec l'interdiction des passoires thermiques, en étiquette G, par exemple, d'un seul coup,
Alors, ça veut dire que, finalement, le DPE, il n'est pas, c'est pas le coup de l'aubaine, c'est pas le fait du hasard. C'est qu'aujourd'hui, moi, je dis que le DPE, tel dans son mode de calcul, d'abord, il faut se rappeler, En juin 2021, le DHUP a fait 14 allers-retours successifs avec les professionnels pour l'ajuster. Finalement, on ajustait plutôt l'outil à l'objectif poursuivi et à la politique choisie. Donc c'était un outil qui n'est pas forcément, je dirais, efficient. Et puis après, moi j'ai toujours dit, dans tous les cas, c'est une profession de diagnostiqueur qui, aujourd'hui, elle souffre un petit peu de sa jeunesse. C'est les maladies infantiles qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce DPE, en réalité, cet outil de calcul, pour moi, c'est un simulateur. C'est un simulateur, il faut aller faire un DPE sur le terrain, et puis on dit au diagnostiqueur, vous voulez pas me mettre un centimètre de plus en isolant ? Et je change la note, moi. Voilà pourquoi il y a des variations. Donc simplement, quand on fait un diagnostic, quand on fait une analyse de sang, on la modifie pas, pour se faire plaisir. Elle est là, elle est établie. Quand on fait un DPE, quand on appuie sur le bouton, on ne peut plus revenir dessus. On fige la valeur, elle est transmise à l'ADEME. Et là, il n'y aura pas de plus de falsification. Première proposition de la Fédération pour rendre le DPE opposable, définitif, infalsifiable et notamment contrôlable.
Infalsifiable. On va reparler justement.
Parce que vraiment, j'en fais 3-4 à la suite et je parle meilleur.
Alors, non, mais c'est.
Je ne suis pas diagnostiqueur.
Non, mais c'est hyper important parce que.
Alors, attention, parce que si je peux me permettre, des fois, il vaut mieux prendre le moins bon. Parce que quand on veut avoir ma prime Rénov derrière, on voit l'inverse aussi. Mais je ne voudrais pas en rajouter dans la complexité.
Est-ce que ça ne vaut pas, j'en sais rien.
On a eu les deux.
Achad, vous avez été proactif sur la question, notamment l'eurodatage, la géolocalisation, le QR code. C'est intéressant que la ministre relève finalement dans la structure du DPE des contrôles ce que vous aviez déjà énoncé il y a bien longtemps et vous étiez, je peux le dire, la seule organisation à le dire. Olivier Safar, un commentaire sur ce qui a été dit, vous qui êtes au cœur du réacteur justement à Paris, où vous représentez, excusez-moi du peu, un cinquième en fait, du flux national quand même.
Alors, premier commentaire, d'abord de dire une chose. Le temps qui a été pris pour mettre en place la méthode opposable n'était pas bon. C'est-à-dire que clairement, quand on a un DPE qui commence en 2006 et qu'on se dit qu'on le met en place pour 2021, on a 15 ans pour préparer le logiciel, pour faire les analyses, pour faire les vérifications. Rien n'a été fait. Et ça, je le regrette, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle effectivement des différents ministères avec les diagnostiqueurs, mais avec aussi les représentants des professionnels de l'immobilier, d'avancer sur ce logiciel et de le fiabiliser. Pourquoi ? Parce que quand on le lance d'un seul coup et qu'on se rend compte que c'est pas bon, c'est une réalité. On a fait des tests. C'est le fameux studio qui se trouvait au dernier étage, dans lequel, sur la première version, j'avais le 1 d'un côté, l'autre à côté, même taille, même superficie, même travaux, un avec chauffage, l'autre sans chauffage. J'en avais un, il avait une note à E, et l'autre, il avait une note à G. Celui qui avait une note à E, c'est celui qui n'avait pas de chauffage du tout dedans. Pourquoi ? Parce que quand on ne mettait pas l'information, excusez-moi, ça sortait effectivement non applicable. C'est-à-dire que globalement, ça donnait une meilleure note parce qu'il n'y avait pas de chauffage à l'intérieur. Donc vous voyez un peu ce
problème-là. Des incohérences quand même.
Et
clairement
là,
des incohérences.
Et là, ce sont des vraies incohérences. Demander la modification, oui, on l'a faite. Avec la FNAIM. On l'a fait de nombreuses fois, aucun doute là-dessus. On a soulevé ces différents points, on leur a expliqué. Et je pense qu'à un moment, on s'est retrouvé face à des gens qui ne comprenaient pas pourquoi, quand on avait un petit studio de 18 mètres carrés par rapport à un autre qui faisait 21, d'un seul coup, je pouvais changer la note. Bah oui, mètre carré 1, 2, 3, quand vous faites votre calcul, quand vous avez un chauffe-eau électrique, quand vous avez effectivement une partie de fenêtre, 1, 2, 3 fenêtres, vous n'avez pas le même calcul pour le même type d'appartement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais quand même rappeler que la sanction, elle est violente. Violente, pourquoi ? Parce qu'elle arrive tout de suite. Or, on est en train de mettre dehors des candidats locataires. C'est-à-dire que les appartements, on n'a pas le droit de les louer. On doit faire les travaux. Les propriétaires, bah, quand ils se retrouvent avec des montants de 15, 20 000, 25 000, 35 000 euros de travaux à réaliser, bah, et souvent, ils n'ont pas les montants. Il ne faut pas croire que les propriétaires sont très riches. En moyenne, les propriétaires en France, bailleurs, ils ont 1 à 2 appartements. Ils n'en ont pas plus. Ça veut dire clairement qu'aujourd'hui, vous leur demandez de sortir 25, 30 000 euros, fois 2, ils ne les ont pas. Et derrière, bah, ce sont nos banquiers que je voudrais incriminer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été là pour aider ces propriétaires bailleurs à financer ces travaux, pour faire avancer les choses. Et ça, c'est quand même un vrai point important.
Alors, merci Olivier Safar, parce que justement, ils le sont de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé l'un des plus gros financeurs. Je vous propose, les amis, qu'on parle justement de la fiabilité de l'outil. Et je vous propose de faire là très rapidement une petite pause musicale et on se retrouve avec un son de Jean-Philippe Dugoin-Clément qu'on a interrogé. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On se retrouve tout de suite.
Les défis de la transition énergétique, FEDEXPERT.
Voilà, de retour sur le plateau pour la fiabilité et les défis de la rénovation énergétique et de la transition énergétique avec vous, Assad, patron de FEDEXPERT, une première organisation de diagnostiqueurs de performance énergétique. Je vous propose, pour aborder cette seconde partie, qu'on écoute Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle qu'il est le vice-président de la région Île-de-France en charge du logement, président de Grand Paris Aménagement, ainsi que de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Il est en outre maire de Mennecy. On l'écoute.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France, président de Grand Paris Aménagement et maire de Mennecy. Alors, le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, il a pris une place considérable. Aujourd'hui, il est une mesure incontournable pour la location, pour la vente. Et la Cour des comptes a passé au crible cet outil et pointe de nombreuses anomalies dans sa mise en place. Quel est votre regard ?
La Cour des comptes ne fait que confirmer ce que disent l'ensemble des professionnels et des acteurs depuis des mois. Le DPE, tel qu'il a été voté et mis en place, il a été déjà modifié à plusieurs reprises, je le rappelle, dans ses modalités d'application, dans ses modalités de calcul. Mais on est surtout aujourd'hui, alors même que les collectivités sont rendues exsangues du fait du budget de l'État et que l'État lui-même réduit très fortement ses aides à la transition écologique sur le logement, le DPE dans son calendrier est aujourd'hui quelque chose qui est totalement intenable et qui, s'il n'est pas revu et amendé très fortement, ce que la ministre a commencé à essayer d'impulser, le DPE va contribuer à aggraver une crise du logement absolument effroyable dans les régions les plus en tension.
On doit le faire évoluer, cet outil, pour le faire perdurer ?
On doit revoir intégralement le calendrier qui a été mis en place. Sur une région comme l'Île-de-France, qui est la région qui connaît la plus forte crise du logement, où moins de 1 dossier sur 10 de logement social est accepté chaque année, à 2034, c'est la moitié du parc locatif francilien qui ne pourra plus être loué. On sait pertinemment que le secteur du bâtiment n'est pas capable de porter ce chantier, que les propriétaires n'ont pas l'argent nécessaire pour pouvoir le porter et que les financeurs publics, État comme collectivité, n'ont pas les moyens d'investir massivement dans des aides aux particuliers. Donc ce qu'on va être amené à faire dans une région comme Île-de-France, on compte 1,3 million mal logés. Dans un pays comme la France, on compte 4,3 million mal logés. C'est d'aggraver le mal logement en sortant des centaines de milliers de logements parc locatif. Donc oui, il est urgent de revoir le calendrier d'application du DPE.
Et est-ce qu'on doit le remettre en cause, ce calendrier ?
Mais le calendrier doit être totalement remis en cause. Le principe du DPE est un principe qui est sain et qui est vertueux, mais le calendrier est totalement inapplicable. J'ajoute que le DPE repose sur les mêmes normes et le même calendrier, quelles que soient les régions. C'est-à-dire que si l'on prend la Haute-Marne, où malheureusement on a eu une déperdition de population et des milliers de logements vacants, ou l'arc Atlantique ou l'arc Méditerranée, où on connaît les crises du logement identiques, on applique le même calendrier de DPE. Dans un cas, sortir des logements du parc locatif n'a pas d'incidence sur le mal logement. Dans l'autre, c'est effroyable. Deuxième aberration du DPE, quand on ne travaille pas sur la régionalisation, le DPE, l'objectif essentiel qui avait été celui du DPE, c'était celui issu de la Convention citoyenne pour le climat, c'était lutter contre la production de carbone et donc le fait de chauffer inutilement. Le deuxième objectif, c'était rendre du pouvoir d'achat. Mettre le même niveau d'isolation quand on est à Marseille ou à Montpellier, où on chauffe les mauvaises années quelques jours par an, ou quand on est à Lille ou à Strasbourg, c'est quelque chose qui n'a aucun sens.
Merci beaucoup Jean-Philippe Dugoin-Clément pour le temps que vous nous avez accordé.
Alors, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. On est d'accord ? Bien. Alors, je relève. Alors, il dit aberration. Le DPE, alors, il ne parle pas de la structure du DPE, donc il trouve l'élément vertueux. Facteur d'aggravation de la crise du logement, qui doublerait le nombre de personnes mal logées. Pour lui, c'est simple, il attaque le calendrier sur lequel il est impossible de tenir et qu'il plaide également pour un moratoire qui permettrait, et c'est vrai qu'il a raison, dans des zones qui sont détendues, dans lesquelles tu n'as pas de problème de logement, d'avoir la possibilité d'avoir un peu plus de flexibilité, surtout à l'heure où on ne construit plus, où on a le plus faible taux d'autorisation d'urbanisme. Réaction, on va commencer par vous, président Quentin.
Sylvain, mais ça, c'est quelque chose que nous, on a milité depuis 3 ans, notamment oui, en rappelant que le calendrier n'était pas tenable.
Et oui, ça doit être frustrant de répéter à chaque fois la même chose.
Absolument, mais je ne le dis plus. Parce que politiquement, c'est pas soutenable.
Ah bon ?
11 groupes parlementaires, et dans tous les cas, il y aura jamais de majorité pour arriver à remettre en cause le calendrier. Donc, on est obligé de composer avec la situation. On voit les réactions du président Macron ce week-end.
Mais quitte à aggraver la crise du logement.
Mais là, dans tous les cas, aujourd'hui, on a beau le dire, l'échéance prochaine, d'abord, premièrement, on a une loi sur l'indécence énergétique qui aurait dû trouver un relais au niveau de l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée au Sénat, c'est la PPL Gacquer-Marchive. La PPL Marchive maintenant. Elle n'est pas encore inscrite au calendrier de l'Assemblée nationale. On devait clarifier à quel moment s'appliquait l'indécence. On n'a toujours pas ce texte, parce qu'il n'y a même pas d'accord au sein des élus sur cette simple disposition. Donc aujourd'hui, dans tous les cas, cette proposition, elle va être reportée. Donc qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui ? Le plus urgent, mais on va le voir au niveau du budget 2026, on a 1 100 000 logements classés F. Un propriétaire sur trois veut vendre. C'est 350 000 logements qu'on va dégager au 1er janvier 2028. C'est là l'échéance. Donc on le sait, on ne cesse de le dire, que l'interdiction de louer couplée à l'obligation de rénovation énergétique, qui est une mesure de sanction et non une mesure d'incitation, va entraîner une attrition du parc locatif alors que celui-ci est déjà en danger. Donc là, c'est aux politiques de prendre la mesure des engagements qu'ils ont pris, des risques qu'ils font courir à la nation sur l'offre de logement qui, elle, va être considérablement
réduite. On va y revenir. Vous avez raison de le pointer. Assad.
Ce que nous soutenons depuis la création de Faits d'Experts, c'est-à-dire depuis octobre 2021, voyant que l'outil n'était pas fiable, que la montée en compétences n'allait pas dans la même trajectoire que le poids qu'on était en train de donner au DPE, c'était d'abord de fiabiliser le DPE sur toute la ligne avant d'appliquer des interdictions.
Oui, quelles qu'elles soient. Oui.
Mais sur toute la ligne, c'est-à-dire d'un point de vue compétences, d'un point de vue logiciel, d'un point de vue dérivé fraude.
Vous vous rendez compte, à ça, tel que vous le dites, c'est plein de bon sens en fait. Ce que vous dites est plein de bon sens. Et on a l'impression qu'on a une réponse politique qui est difficile à comprendre. Vous êtes frustré, vous aussi, d'entendre ce
discours. Nous sommes frustrés, mais chez nous, il y a des réponses à cela. C'est-à-dire que nous, Fédération, on est complètement divisés. C'est-à-dire qu'il y a certaines organisations qui ont la même vision que Faits d'Experts, c'est-à-dire qui se disent, bon, finalement, on n'a pas réussi à fiabiliser dans les temps le DPE, il serait peut-être temps de suspendre. On a suspendu MaPrimeRénov', donc pourquoi ne pas suspendre ses obligations ?
Non mais,
dans l'idée...
On va en parler. C'est l'actualité, on va en parler.
Et d'autres vont dire, non mais c'est reculé dans la transition énergétique. Moi je dis, c'est pas reculé dans la transition énergétique.
Oui, c'est ce que disait Emmanuel Vargon.
Ce qui est reculé, c'est
disant,
de donner des documents qui sont faux. Oui. Ça, c'est reculé, clairement.
Moi, je voudrais quand même revenir une chose, Sylvain,
et ensuite, voilà,
que les choses soient claires. On l'a dit depuis toujours, les échéances qui ont été proposées dans la loi climat et résilience ne sont pas adaptées, je dis bien adaptées, au mode de calcul, bien évidemment, du DPE, mais aussi à la capacité des propriétaires à faire les travaux pour louer les appartements. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un report. On n'est pas contre l'amélioration énergétique. Au contraire, on est même favorable, on l'a accompagné. On comprend parfaitement toutes ces obligations qui, pour les propriétaires, sont hors extraordinaires au niveau montant, mais globalement, il faut laisser le temps pour le faire. Et en immobilier, on sait que le temps, c'est pas 3 ans ou 4 ans, c'est en moyenne 10 ans. Donc ça veut dire que globalement, on s'est trompé sur les échéances. Quand on a commencé le DPE en 2006, c'était très bien, on le comprend. Il aurait fallu, en 2015 ou 2016, dire attention, il sera opposable que dans 10 ans, mais vous avez 10 ans pour mettre en place les modes de calcul et les façons de faire. Vous aurez non pas 3 ans pour pouvoir vous mettre en conformité, mais vous aurez 5 ans, puis 5 ans, et globalement, quand on met les choses sur 15 ans dans la matière immobilière, ce sont nos délais habituels pour l'immobilier. Je voudrais quand même le dire, c'est quand même un point important.
C'est ce que dit Assad, effectivement. C'est complexe, hein, la politique, justement. On a un élu hein, sur le plateau, donc on va en profiter. Vous êtes toujours dans la majorité, Lionel Causs ?
Je suis rattaché au groupe EPR, bien entendu.
Non, parce que... Très franchement, vous y étiez, hein, puisque vous étiez au Conseil national de l'habitat. Vous êtes toujours axé sur le logement. Combien de fois je vous ai posé la question du moratoire ou du report du calendrier ? Et à chaque fois, on avait une réponse. Alors, pas la vôtre, parce que je sais que vous y étiez favorable. Mais on avait quand même des ministres qui se sont succédés. Il y en a quand même eu 6 qui disaient tous la même chose en disant si on ne contraint pas, on n'y arrivera pas. Et ils prenaient pour preuve l'opposabilité du DPE sur la loi climat et résilience en août 2021.
Si vous voulez, tout.
Question. Voilà. Réaction aussi sur ce qu'a dit Jean-Philippe.
Ce que dit Jean-Philippe, que je connais très bien, oui. Qui a une connaissance remarquable sur ce sujet-là, est juste. Ce que vous dites est très juste. Et ce que disaient les ministres est très juste aussi. Et je pouvais le dire aussi. C'est-à-dire qu'on sait très bien, si on veut avancer, il faut des calendriers, il faut se donner les moyens. Le problème, c'est que quand on a lancé ces démarches-là, il y avait un engagement de l'État d'aller jusqu'à 10 milliards d'euros de MaPrimeRénov'. Il y avait le fait de vouloir accompagner très aussi juste. Entre eux, parce qu'il y a 2 notations de DPE. Hein, il y a la consommation d'électricité, les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a eu un décret qui a dit on prend la plus mauvaise des 2 notes, alors que ce n'était pas forcément ce qui était entendu ou entendable au début. Et moi, là, c'est ma petite colère à moi. C'est que j'ai appris jeudi dernier que la PPL sur les DPE au niveau des copropriétés était, qui devait démarrer cette semaine. Moi, j'avais déposé des amendements, ainsi que mes collègues. On y a travaillé depuis des mois. Je vous ai tous eu à ce sujet-là pour essayer d'enrichir le texte.
Rappelez-nous rapidement la PPL.
Et on l'a sorti sans... Oui. C'était pour trouver des solutions, en gros, pour les copropriétés sur lesquelles des propriétaires ne peuvent plus louer parce que leur logement est en G, mais sur lesquels ils ne sont pas, en gros, responsables de la décision de la non-effectivité des travaux. Voilà, je le fais dans un langage un petit peu compréhensible. Donc, c'est des choses que tout le monde peut comprendre. On peut tous dire, oui, il y a quelque chose à faire là-dessus. Cette PPL qui était inscrite cette semaine à l'ordre du jour de l'Assemblée a été retirée la semaine dernière. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle va passer. Donc, quelque chose qui était annoncé en 2024 comme urgent, sur lequel on avait commencé à travailler en janvier, et bien finalement, ce n'est plus devenu urgent. Donc, ça se demandait d'ailleurs s'il va falloir la passer. Il y avait, l'automne dernier, moi avec d'autres, on a fait proposition au gouvernement. J'ai dit, il y a 2 solutions. Il y a du législatif et il y a du réglementaire. Législatif, j'avais prévenu le gouvernement en disant attention, on sait comment rentre un texte à l'Assemblée nationale, on ne sait pas trop comment il en sort en ce moment. C'est le contexte composition à l'Assemblée nationale qui est ainsi faite. Par contre, sur le plan réglementaire, on pouvait apporter des réponses qui pouvaient aller sans. Parce que quand on dit il faut changer le calendrier, qu'est-ce qu'on fait quand on change le calendrier ? Donc j'avais fait 2 propositions au gouvernement. La première, c'est de dire on prend la meilleure des 2 notes, on sortait 80% des logements concernés par la note G. Effectivement, qui passait à une autre de F ou de E, donc ça permettait de donner un peu de temps, et ce n'est qu'un décret. C'est-à-dire, c'est dans le décret où on dit qu'on prend la plus mauvaise des 2 notes, j'avais proposé un rajout de virgule, en ce qui concerne location, que les locations, on ne touchait pas la vente pour éviter d'avoir un problème avec les ventes. Pour les locations dans le collectif, on prend la meilleure des 2 notes, virgule, et on reprend le texte. C'est un décret, il suffit de le passer, je pense que tout le monde aurait donné un avis favorable sur ce décret.
Vous êtes d'accord,
c'était réglé en 1 mois. Ça aurait été réglé en 2024, on réglait 80% des situations jusqu'à une date qu'on se donnait. C'était une façon de régler le problème du calendrier. La deuxième solution, qui est de réglementaire aussi, sur laquelle vous êtes nombreux, beaucoup font des propositions, je n'ai pas d'avis parce que j'entends le pour et le contre, mais en tout cas, il faut l'étudier. Et j'avais déposé un amendement là, sur la PPL pour demander un rapport sur le sujet qu'on l'évalue exactement, c'est changer le coefficient d'électricité. C'est un sujet aussi qui nous permettrait de pouvoir indirectement, mais aussi directement, apporter une réponse, puisque aujourd'hui, c'est bien un des enjeux, c'est-à-dire que on fait pénaliser, puisque c'est la consommation d'énergie qui est souvent la plus mauvaise des 2 notes. Alors que notre enjeu, c'est les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, c'est la 2e note. Et c'est celle-là qui est souvent meilleure, mais qui n'est pas prise en compte. Donc voilà, il y a des incohérences. Et moi, je suis en colère parce que aujourd'hui, entre ce report jusqu'à une date que je ne connais pas de la PPL, au moins pour les copros, plus l'annonce qu'on a tous appris par la presse la semaine dernière sur la réduction de MaPrimeRénov', fait que ben oui, tout le monde a raison. Ben, vous avez raison, messieurs, je suis désolé de le dire, mais oui, vous avez raison, enfin voilà, parce que les décisions du gouvernement font que justement, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens ni l'ambition de pouvoir atteindre nos objectifs.
Jean-Philippe Dugan-Clément, il va très loin, hein, quand même. Il parle, par exemple, du logement social dans lequel, en fait, il sur l'Île-de-France, c'est 18 millions d'habitants, hein, c'est 1/5 de la population française. Alors lui, il pronostique carrément un blocage grave, puisqu'il suggère que la crise du logement, et notamment l'accès au marché locatif privé et social, va être non seulement fortement grippé, mais va doubler en pression.
Mais Sylvain, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, l'indécence, elle frappe à la fois le logement privé, le parc social.
Ah oui, oui.
Je vais même aller plus loin. On n'a toujours pas réussi à apporter un éclairage sur la rédaction de la loi climat-résilience, qui dit sont frappés d'indécence les logements loués au 1er janvier 2025. En réalité, tout logement qui est loué au 1er janvier 2025, il est indécent. La PPL Marchis devait justement permettre d'apporter un éclairage
et faire en sorte
l'indécence ne s'appliquerait qu'au moment du renouvellement du bail. Donc ça, on n'arrive même pas à se mettre d'accord là-dessus, on ne peut même pas le faire. Mais je vais aller plus loin maintenant sur l'indécence. Un logement social qui est classé G, loué au 1er janvier 2025, entraîne immédiatement la suspension du versement de l'allocation logement aux familles. On ne peut pas recevoir de prestations familiales d'allocation de logement si le logement est indécent. Voilà. Et oui, c'est la réalité. C'est le droit français. Voilà, donc on fait peser également un gros risque sur des familles qui sont énorme. Fragiles.
Donc accroissement de la précarité qui était déjà bien avancée.
Absolument.
C'est pour ça qu'il y a urgence, à revoir, du moins, à essayer de mettre un frein à tout ça, le temps de clarifier la situation sur le dispositif. Parce que là,
sur les G, c'est 70 000 logements concernés sur les G. Sur les
577 000.
Ça tient parce qu'il n'y a pas de jurisprudence. Voilà, parce qu'aujourd'hui, personne n'est rien, y compris les locataires. Moi, j'en connais qui sont dans du G. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent sortir de leur logement s'ils disent aux propriétaires de faire les travaux, on les met dehors.
Donc, on est dans un cercle.
Vous savez ce qui m'est passé ? C'est pire que ça. Certains locataires qui sont en G nous ont téléphoné en demandant à ce que le propriétaire n'engage pas les travaux et ne les mette pas dehors. On dit, nous, on est d'accord pour rester, on ne veut surtout pas, rien d'autre. C'est une réalité.
Non, mais je vais même aller plus loin, Président Safar, parce que j'ai la chance d'aller dans toutes les villes de France. Et d'ailleurs, Assad, il y va aussi beaucoup, puisqu'il sillonne le territoire, et pas que, puisque vous êtes aussi basé en Europe. C'est dramatique, ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement heureux de trouver ne serait-ce qu'un toit sur leur tête, qu'il ne leur viendrait même pas l'idée de réfléchir là-dessus, pour vous dire à quel point nous en sommes arrivés. L'idée de cette émission, messieurs, vous qui nous écoutez avec FedExpert, c'est aussi de vous donner des solutions. C'est l'objectif de cette collection qu'on s'est fixé avec l'ensemble des équipes l'association de la Fédération FedExpert. Je vous propose de passer justement à deux sujets, en deux thématiques. Réformer la filière pour instaurer la confiance, parce que vous avez les solutions. Et l'objectif, c'est de lutter d'influence, même si, effectivement, il faudra se donner rendez-vous aux urnes, de toute façon, pour être très clair, pour justement infléchir cette politique et essayer d'aller vers cette neutralité carbone, auquel on est tous d'accord, d'ailleurs, puisque vous, les professionnels de l'immobilier, avez toutes les solutions. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après ça.
Les défis de la transition énergétique, FedExpert.
Restaurer la confiance, c'est le sujet du jour. Réformer avec les solutions qui sont mises en avant et par les organisations professionnelles, comme FedExpert, par la FNIM, par l'UNIS, mais également promues par des élus de la nation au plus proche du terrain. C'est le cas du député Lionel Causse. C'est une chose que j'aime beaucoup chez vous, Lionel, c'est que même si parfois je vous ai un petit peu taclé sur le fait que vous fassiez partie de la majorité, tous les défauts existent, vous parlez vrai et vous n'hésitez pas d'ailleurs également à fustiger vos collègues parfois, parce que vous avez le sens effectivement de l'intérêt général, et la question du logement est une question auquel vous êtes extrêmement sensible. Justement, on parlait de Lionel Labaronne, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas être là, député de la 19e circonscription d'Indre-et-Loire. Et d'ailleurs, on est en train de travailler avec lui sur des sujets d'adaptation du logement, avec Laurent Permas, avec un collectif qui s'appelle Le Temps d'agir. Il est très proactif. Je vous propose de l'écouter, puisqu'il n'a pas pu se rendre ici. Vous allez voir, extrêmement intéressant, la question qui lui a été posée, c'est la certification de la profession de diagnostiqueur, est-elle nécessaire aujourd'hui? On l'écoute.
Daniel Labaronne, bonjour, vous êtes député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors, vous avez été missionné récemment par la ministre du Logement, Valérie Létard, sur le diagnostic de performance énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît?
Oui, alors bonjour d'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, la ministre Valérie Létard a souhaité mettre en place un plan d'action autour du DPE qui comporte notamment l'idée de créer éventuellement un ordre des diagnostiqueurs. Vous savez que il y a près de 10 000 professionnels. Il y a de très nombreux DPE qui sont réalisés tous les jours et donc le phénomène devient massif. Et ce que l'on constate, c'est que La profession n'est peut-être pas suffisamment regroupée, elle est très éclatée, et du coup, on a un peu de mal à avoir des interlocuteurs qui nous permettraient, nous, puissance publique, à la fois le gouvernement et le législateur, de préciser un petit peu le cadre déontologique de l'action des diagnostiqueurs, et puis ce qui va avec un ordre, c'est-à-dire la registre des professionnels habilités, le respect d'une déontologie sur laquelle il faut travailler,
et, oui.
Et puis éventuellement les sanctions qui pourraient être appliquées, les sanctions disciplinaires, si nécessaire, s'il est évident que certains diagnostiqueurs entachent un peu la profession par leur manque de professionnalisme. Parce que moi, je dis que les diagnostiqueurs font, dans leur immense majorité, un excellent travail. C'est une profession qui est tout à fait utile pour notre objectif de décarbonation de l'économie. Et donc, il ne faut pas que cette profession qui est remarquable puisse être entachée par des pratiques de diagnostiqueurs qui ne seraient pas très vertueux. Voilà. Donc, l'idée, c'est de réfléchir sur la création d'un ordre. Et pour cela, je consulte tous ceux qui veulent m'éclairer sur ce point.
Et notamment parce que le DPE, il a été placé comme outil central dans la politique de rénovation énergétique en France. Et il ne faut surtout pas que les Français aient moins confiance en cet outil. Du coup, la structuration du métier de diagnostiqueur, vous dites qu'elle est absolument nécessaire, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas le seul à le dire. Hein.
Oui.
Le dernier rapport de la Cour des comptes dit que il faut vraiment engager un processus de structuration de la filière, et ça il faut le faire avant fin 2026. C'est une recommandation de la Cour des comptes, et je pense que de réfléchir autour de la création d'un ordre, ça peut permettre justement d'accélérer ce processus de structuration. Parce que, on le voit bien, et moi-même, je suis d'ailleurs confronté à cette difficulté, c'est que j'ai beaucoup de personnes à interroger qui représentent pas toujours beaucoup de monde, mais voilà, qui souhaitent me rencontrer pour parler de cette question. Mais si la profession était mieux structurée, mieux encadrée, s'il y avait un syndicat national représentatif vraiment de toute la profession, ce serait plus facile pour moi, mais surtout pour les pouvoirs publics, pour discuter un petit peu de l'avenir de cette profession.
Ce serait plus lisible en tout cas. Merci beaucoup Daniel Labaronne pour ce moment que vous nous avez accordé.
Voilà, député de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, Daniel Labaronne. Alors j'aime beaucoup Daniel Labaronne, parce que je travaille avec lui sur pas mal de sujets, mais là franchement il m'épate. Pour ne pas dire autre chose, je vous voyais opiner. Moi, je suis très surpris, hein, je vous le dis franchement, je voudrais avoir votre réaction, je suis très surpris. Ça fait des années que je suis dans ce métier, on se connaît tous très bien, les solutions, elles sont là, les organisations patronales, je suis très surpris, elles existent, je suis très étonné. Et en fait, ce que dit Daniel Labaronne, c'est qu'il n'a personne en face de lui, ou très peu, qu'il y a une désorganisation complète sur la prise de bois, que ça lui paraît complètement éthérique, et je vais même aller plus loin, ne serait-ce qu'en consultant la FNIM, qui a été proactive quand même dès l'origine, que je rappelle que la FNIM avait créé parmi les premiers une chambre pour les diagnostiqueurs, l'UNIS, vous étiez depuis des années sur le sujet, enfin, je suis un peu surpris, réaction un peu politique par vous, Assad ?
Mais écoutez, je vais être assez long, parce que...
Oui, mais soyez bon, parce que vous l'avez rencontré la semaine dernière.
Je l'ai rencontré la semaine dernière, je l'ai rencontré il y a un an et demi pour justement lui notifier qu'il fallait éviter que la Cour des comptes s'empare du DPE, parce qu'il y a un an et demi, on était juste sur des bruits de couloir que la Cour des comptes serait sur le dos, allait être sur le dos du DPE. Donc on avait fait tout un listing des dérives et des solutions en face à mettre en place, et Monsieur Labaronne nous avait reçu, et il était très au fait de tout ce qui se passait. Donc moi j'ai envie de parler aujourd'hui au nom de nos adhérents, des professionnels que nous représentons, qui suite à ce rapport de la Cour des comptes et au discours de Monsieur Labaronne et de toute la mauvaise communication qui a été faite autour de ce rapport de la Cour des comptes, nos adhérents ont la sensation d'avoir été lâchés. lâchés par les pouvoirs publics qui les ont pourtant créés. C'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui ont créé les diagnostiqueurs. Ils existent grâce à eux. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont lâchés.
Mais je comprends que vous le disiez parce que c'est un peu le sentiment qu'on a, nous, les journalistes.
Hein. Sans rétablissement de la vérité.
Oui.
C'est-à-dire que la Cour des comptes dit ce qu'elle a relevé sans dire qu'il y avait des solutions qui étaient mises en place, qui sont rentrées en vigueur qu'au 1er janvier de cette année. D'autres allaient arriver. Donc il n'y a pas eu de communication
sur
ça. Il n'y a pas eu de rétablissement de la vérité. Lorsqu'on dit que tous les diagnostiqueurs ou 70% des DPE sont faux...
Mais vous ne contestez pas le résultat de la Cour des comptes.
On ne le conteste pas.
Vous serez même plutôt d'accord.
On existe de par ces dérives qu'on a soulevées en 2021, je le rappelle. Donc, à un moment donné, si derrière, il n'y a pas de rétablissement de la vérité en disant que 70% des DPE sont faux, que quasiment tous les diagnostiqueurs sont des fraudeurs, que la montée en compétences n'existe pas, alors qu'il y a des mesures qui viennent d'entrer en vigueur, donc il faudra du temps pour voir ces effets-là. Et il y a encore des choses à faire, mais on attend les textes à venir. Mais de là à dire que, quand on entend ce discours, on a l'impression que rien n'est fait, que c'est un Far West qui continue, qui est complet. Aujourd'hui, les mesures vont arriver et on les attend avec impatience. Par contre, là, c'est vrai, il y a un travail de structuration au niveau du métier. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on a ce problème de structuration. Il y a des textes réglementaires qui existent et que si tout le monde les suit, il n'y a aucune dérive, il n'y a aucun problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune autorité derrière pour vérifier si ces textes sont suivis. Alors vous allez me dire, il existe des organismes certificateurs. Or, les organismes certificateurs sont là uniquement pour attester de la compétence ou de l'incompétence des diagnostiqueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leurs prérogatives, leurs limites s'arrêtent. Ils n'ont pas de prérogatives de puissance publique, de sanctions pénales, de pouvoir de police.
Oui, ils s'assurent uniquement qu'on a les capacités à agir ou pas.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je les ai reçus, les organismes certificateurs, j'ai suivi leurs signalements, des signalements qu'ils reçoivent de part de clients, de locataires, etc. À un moment donné, ils nous disent qu'à partir du moment où ça ne traite plus des compétences du diagnostiqueur, on ne peut pas appliquer de sanctions. Donc, à un moment donné, est-ce que, à la place de parler d'un ordre qui est, moi je le rappelle, est une bonne voie finale, mais peut-être un peu trop prématuré pour le moment, peut-être donner des pouvoirs ou des prérogatives aux organismes certificateurs pour avoir certains pouvoirs de mettre hors d'état de nuire lorsqu'on parle de dérives autres que celles liées aux compétences, de copier-coller de DPE, de DPE par téléphone, sans déplacement. À un moment donné, il faut que l'organisme certificateur ait un pouvoir de dire stop. Aujourd'hui, si l'affaire va en justice, l'organisme certificateur n'a pas cette compétence.
Okay. C'est vrai. On est d'accord, c'est vrai, c'est faux DPE. C'est des PE qui sont déposés, usurpés, ou des diagnostiqueurs qui ne se déplacent pas,
C'est une réalité, et je vais vous donner un scoop. Hein. Okay. Il y a une étude qui va sortir, qui va très certainement augmenter cette statistique de quelques DPE, quelques milliers de DPE frauduleux, parce que ces DPE frauduleux qui sont cités par la ministre Létard ou la Cour des comptes ne portent que sur les DPE inscrits sur le site de l'ADEME, je le rappelle. Or, il y a des DPE qui ne figurent pas sur le site de l'ADEME ou qui ont des faux numéros ADEME. Donc là, il va y avoir une nouvelle statistique qui va être faite par la start-up que vous connaissez bien, je vais taire le nom pour le moment, mais a réussi à faire une étude pour retrouver le nombre de DPE qui ne sont pas sur le site de l'ADEME. Donc ça va venir encore ajouter un certain nombre de DPE frauduleux.
C'est Valérie Létard a nommé à l'Assemblée Générale, en réponse à Naïg Le Meur qui l'avait interpellé, a nommé le nom de cette start-up qui avait évalué les DPE de complaisance à 1 300 000 DPE. Hein. Réaction, président Quentin.
Je dirais que moi, je ne comprends plus grand-chose.
C'est dur, hein. c'est troublant ce que dit la baronne.
C'est-à-dire, je ne comprends plus rien à la politique. Quoi. Je crois que l'ère de la Macronie, c'était tout sauf les ordres.
Je vous rassure, non plus.
Les professions ordinales, on les a laissées de côté et tout d'un coup, elles reviennent. Alors moi, je m'étonne, c'est quand même que pendant mandature, il a fallu que je réclame depuis 6 ou 7 ans, y compris avec mon prédécesseur, le décret formation est prévu depuis la loi Allure. Il a fallu aller devant le Conseil d'État pour faire condamner le Premier ministre
11 ans.
À publier ce décret 11 ans après, alors qu'il faut 6 mois en France. Rien qu'un décret qui concerne la formation obligatoire à l'entrée dans la profession, qui est le garant de la sécurité du parcours du consommateur et son accompagnement. Commission de contrôle, c'est la même chose. Là, j'ai menacé aussi de procédure. Alors on bouge. Le CNTJ va le mettre en place, et sous l'impulsion de Valérie Létard, tant mieux. Commission de contrôle, qui a une version minimaliste de ce qu'on en pouvait. Nous sommes des fédérations professionnelles responsables majeures, on demande d'avoir un outil de sanction parce que ça existe aussi dans notre profession, et il y a des gens, parce que Il faut reconnaître, Sylvain, quand il y a un marché du DPE de 4 millions de DPE par an, 350 000, c'est une mine d'or, et on suscite des convoitises, et toutes les escroqueries, comme les escroqueries sur ma prime rénov', c'est 17% de ma prime rénov' qui sont effectivement des dossiers frauduleux.
On va en parler tout à l'heure.
Et là, il faut effectivement un organisme de sanction, mais un organisme de sanction difficile. Mais quand la profession s'arme de cette revendication, de cette demande qu'elle n'est pas entendue, qu'elle n'est pas suivie, et que certains s'agitent au moment où effectivement ça devient un sujet d'actualité, le combat politique, c'est de tous les instants, c'est pas uniquement en fonction de l'opportunité et de l'intérêt qu'on y trouve.
Si vous présentez, je vote pour vous. Alors, président Safar.
Alors, moi, je suis
non, mais c'est vrai, il a raison, Loïc Quentin, il a raison. Enfin, c'est des
Là, il a raison parce que ça fait des années qu'on le dit, mais ce qui m'inquiète, c'est que le député La Baronne, lui, dit qu'il n'y a en face de lui personne. Alors que nous sommes là, Naïm, UNIS, FedEx, les choses sont là.
UNIS, FedExpert.
FedExpert, FNAIM.
Vous avez toutes les solutions.
On a les solutions, on est présent.
Et vous êtes, connaissez et vous êtes prêts,
et on se connaît,
crois, à bosser tous ensemble de concert.
Et le principe pour nous, c'est l'intérêt du consommateur. Il faut le comprendre. Ils ont une vision complètement différente.
Très important.
Le but du jeu, c'est pas de dire on fait pas, on fait comme ci, on fait comme ça. Le but du jeu, c'est à un moment de dire oui, ce type d'appartement, ils ont un DPE, le DPE est fiable, voilà les travaux qu'il faut faire, voilà comment on doit les organiser, voilà le temps que ça va prendre pour le faire. C'est un point important. Deuxième point important, c'est de se dire oui, on est capable d'avancer sur des choses pour l'organiser, pour réguler. On n'est pas là pour interdire, on n'est pas là pour libéraliser la totalité, pour dire faites toutes les bêtises que vous voulez. On est là pour essayer d'organiser les choses pour que ça se passe le mieux possible. Et j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas, ou qu'on ne veut pas nous écouter.
De toute façon, nous avons prévu avec notre super producteur Grégoire, il va venir, Daniel La Baronne. On va faire un entretien avec lui, parce que faut quand même. S'il avait pu venir, il serait venu. D'ailleurs, à mon avis, il a peut-être raison de ne pas venir. Assad.
Je veux juste compléter sur le volet compétences. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des compétences diagnostiqueurs, c'était repris par Valérie Létard, c'était repris par la Cour des comptes et Daniel La Baronne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des textes qui ont été rehaussés envers les organismes de formation et de certification. Ça, déjà, ce n'est pas pris en compte. Et pour voir ces effets-là, il va falloir beaucoup de temps. Par contre, quand je parlais tout à l'heure d'autorité qui n'existe pas aujourd'hui, qui permettrait de voir si tous les textes réglementaires sont suivis, on a par exemple certains organismes de formation, pas tous, heureusement, mais on va dire à peu près 30% des organismes qui ne suivent pas ces textes. Donc est-ce que c'est bien normal que...
De quel organisme on parle ?
Je ne vais pas citer de nom. Non, mais il y a des organismes, par exemple, qui aujourd'hui, pour devenir diagnostiqueur immobilier...
Non, mais est-ce que c'est sur des organismes de quoi ? De formation ?
De formation qui sont agréés.
Ah oui, quand même.
Ils sont agréés, parce qu'aujourd'hui, pour dispenser de formation en diagnostic immobilier, il faut un certificat qualité qui est dispensé par un organisme
reconnu. Combien de temps il faut pour être diagnostiqueur de performance énergétique ?
Aujourd'hui, il faut un peu plus de 11 jours. Cet organisme que je viens de citer, tout à fait.
Que moi, je suis métallo, je veux devenir...
C'était 3 jours il y a moins d'un an, vous voyez ? Donc, on passe de 3 à 11 ou 12 jours, c'est déjà très bien. Mais aujourd'hui, il y a encore des organismes qui sont sur cet ancien cycle... De 3 jours. Alors, comment ça se fait qu'il y a 7 organismes sur 10 qui appliquent les textes réglementaires et qui sont sur ces 12 jours, et d'autres qui continuent comme ça à être sur l'ancienne mouture, à former des gens en 3 jours au DPE, sans qu'on leur dise rien, alors qu'ils ont été signalés, ils ont été remontés, et rien ne se passe. Donc, lorsqu'on parle d'autorité pour suivre ce genre de dérive, c'est pas un ordre aujourd'hui qui va aller suivre les organismes de formation, de certification,
de diagnostiqueurs. C'est important ce que vous dites pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes favorable, vous, à un renforcement de la formation, ça je le sais.
Tout à fait.
Est-ce que vous seriez également favorable à la création carrément d'un diplôme From Scratch qui permettrait à des personnes avec un prérequis d'avoir une formation beaucoup plus longue ?
À partir du moment où on tend vers l'excellence, nous, on est fermé à rien.
D'accord.
C'est-à-dire que si, demain, il faut un diplôme reconnu par l'État, par une voie initiale...
Oui, mais par exemple,
qui permettrait à des jeunes
inscrire au répertoire national de certification...
Ça existe déjà, inscrire au RNCP, mais un diplôme académique.
D'accord,
académique. Délivré par l'académie,
des académies. Voilà.
Nous, on n'est absolument pas fermé. Déjà, ça permettra à certains jeunes de venir dans ce métier, parce que c'est un métier aujourd'hui quasiment exclusivement de reconversion.
Oui, mais il faut avoir une base quand même, non ? On ne devient pas un diagnostiqueur. Si je suis cuisinier, je ne deviens pas un diagnostiqueur en 10 jours.
Si, malheureusement.
C'est
ah oui,
réalité.
C'est une réalité.
Il n'y a même pas besoin de se déplacer pour faire le diagnostic pour certains de ces cuisiniers. Je suis désolé
c'est ça,
de le dire.
C'est ça.
Le problème, c'est
là où on a, c'est là où on a un souci, parce qu'on a aussi des organismes de formation qui sont adhérents chez nous et qui nous disent on subit de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que nous, on est sur une formation qui coûte deux fois plus cher parce qu'elle dure trois fois plus longtemps. Bon, ben, il y a beaucoup de stagiaires aujourd'hui qui se reportent vers ces organismes qui continuent à être sous l'ancienne mouture, qui coûtent trois fois moins cher parce qu'ils sont trois fois moins longs et qui dispensent trois fois moins de connaissances. Donc on continue à envoyer comme ça sur le terrain, alors qu'il y a des textes qui existent, qui ont été renforcés. Aujourd'hui, si vous appliquez ces textes, c'est 70% d'échecs à l'examen des PE sous la nouvelle mouture.
Ils ont le droit de faire ça ou pas ?
Mais non ! C'est là où on demande une autorité régulatrice
on voudrait qu'on donne la parole à Lionel Cos.
On donne la parole au député, d'abord. Oui. Non, d'abord, 13 organismes de certification. Quand on est viré de l'un, on va chez l'autre. Bon, 13 formations différentes sur les organismes de certification, il en suffirait qu'un seul, déjà première chose, première réforme à entreprendre, auquel, effectivement, on adosse une commission de sanctions, et notamment qui peut être regroupée de consommateurs et de professionnels, ou de représentants des syndicats, et ça me paraît important. Et puis deuxièmement, ce que je disais tout à l'heure, quand on prend l'outil de DPE, on joue, c'est un vrai simulateur. Alors j'en mets un peu plus, j'en mets un peu moins, je regarde, j'ai défini la note, mais... Moi, ce que je dis, c'est pour faire le calcul, dès qu'on fait le calcul, on envoie à l'ADEME et le numéro est immédiat. Des DPE, on peut en avoir autant qu'on veut, à la même adresse, pour le même bien. On peut en faire autant qu'on veut. Et on prend celui qu'on souhaite. Mais même sans l'envoyer à l'ADEME, on fait la simulation et on retient celui que l'on veut au travers des critères qui ne sont pas forcément contrôlables.
Loïc Quentin, le client qui n'est pas satisfait de son DPE, il va appeler un autre diagnostiqueur
on peut le faire.
Pour espérer d'améliorer la note.
Mais bien sûr.
Oui, c'est...
Bien sûr.
Et une fois sur deux,
Lionel Cos.
Une fois sur deux, le est différent. Et là-dessus, l'ADEME ne répond rien.
Oui, oui. Lionel Cos, votre collègue la baronne, il a un discours quand même un peu particulier compte tenu de ce qui avait été fait et ce que vous avez d'ailleurs vous-même fait. Il n'y a pas un problème de communication là au sein du Parlement hein.
Je pense que Daniel Labaronne, dans son expression, ne veut pas dire qu'il n'y a personne en face, qu'il n'y a pas la profession. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'ils sont nombreux, que vous êtes nombreux, messieurs et mesdames. Pas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde. Et moi, je l'ai constaté aussi. Donc, j'ai fait de ce côté-là le même constat que Daniel. Et c'est vrai que c'est compliqué, lorsqu'on travaille sur des sujets très techniques, très professionnels comme celui-là, de pouvoir entendre, comme vous venez de le dire, ça vient de le dire, hein, moi, chaque fois que je rencontre des professionnels, on me dit tel organisme de certification, tel organisme de formation n'est pas bon. Pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi ils fonctionnent? J'ai eu un entretien avec la COUFRAC encore la semaine dernière. Et je pense qu'effectivement, il y a une responsabilité collective. Nous les élus, certains plus importants que les autres, et c'est normal. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal, quelque part, d'entendre que lorsque une certification a été donnée à un organisme, on sait que les conditions de réussite, que, je dirais, le travail qui doit être missionné par cet organisme, qui est quand même une mission importante, n'est pas bonne. Et qu'il faut des mois et des mois avant de sortir la certification. Il faut de l'action-réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça la sanction. Mais la sanction, ils l'ont, le moyen de sanction. Ils l'ont à condition de pouvoir sanctionner immédiatement. Et de pouvoir le faire savoir.
Très juste.
Parce qu'on voit sur les diagnostiqueurs qui sont sortis, on n'a pas le fichier. On connaît bien ce FedEx, le réclame depuis longtemps. C'est-à-dire on a la liste des diagnostiqueurs. On n'a pas forcément la liste de ceux qui ont été sortis, donc ils peuvent rentrer par la petite porte par derrière, etc. On sait très bien qu'il y a tout ce problème. Donc il y a tout un système qui arrive à s'organiser, en faire en sorte que même quand ils sont détectés, même quand il y a un problème, hop, ils reviennent par la petite porte, ils arrivent à trouver une solution pour venir, parce que derrière, le temps d'organiser effectivement des sanctions, de sortir la certification, mais c'est beaucoup plus long que la rapidité que certains ont pour pouvoir venir. Donc oui, c'est pas normal que des formations réglementaires ne soient pas respectées. Donc je dis, j'ai eu la COUFRAC la semaine dernière, je le redirai dans mon rapport, il faut que les certifications...
Le cadre, je suis même allé voir
Calibat la semaine dernière, pour voir comment ils étudiaient, comment ils sortaient effectivement des entreprises qui sont RGE, etc. Et c'est vrai que j'ai pu constater, ils me disent, c'est décision suspendue. Suspendu, ça veut dire que vous avez 6 mois pour venir compléter ou représenter de nouveaux dossiers, etc. Mais non, ça peut pas fonctionner. Je peux le comprendre sur le sens humain et sur le sens... on peut toujours donner confiance, essayer d'accompagner les acteurs qui sont importants.
Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de plus de fermeté. Et pour avoir plus de fermeté, c'est à l'État. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais je vais revenir sur ce que je dis tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, l'organisation qu'il y a, elle dépend de l'État. C'est à l'État de taper du poing sur la table. Toutes ces organisations qui font quand même un métier que l'État leur a délégué, quelque part, hein, vous prenez la COFRAC, pour que derrière, certifier et des organismes de certification et des centres de formation.
Il faudrait d'ailleurs peut-être songer à ce que les professionnels de l'immobilier et les organisations du DPE fassent un front uni. J'ai pas dit UNIS, hein, j'ai dit UNI, un fonds uni pour porter, effectivement, puisque quand on vous écoute, il y a quand même une vraie convergence de vues. Je voudrais, pour la dernière partie, puisque le temps avance, mais c'est important de prendre le temps justement pour vous expliquer, parce que vous êtes très nombreux à nous solliciter sur cette question, qu'on parle aussi des perspectives, notamment de la notion de financement. Dans ce chapitre, je voudrais qu'on évoque le cataclysme qui a frappé il y a quelques jours toute la profession, avec les interventions d'Éric Lombard, et relayées bien sûr par Valérie Létard, en faisant ce qu'elle peut, hein, elle fait vraiment ce qu'elle peut, hein, ça, c'est clair. 1,8 milliard d'euros ont été dépensés au titre de ma prime rénov actualisée, soit la moitié moins de l'allocation qui était prévue pour l'année 2025. Du jour au lendemain, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu venir, hein, donc pas nous, sauf erreur, et pourtant je suis sur le fil du ministère, sur le groupe WhatsApp, et vraiment le ministère est très actif, hein, du logement, on peut le dire, hein, pour leur rendre justice. On ne l'a pas vu arriver, du jour au lendemain, tous mes collègues de la presse sont émus, ça fait la une des journaux, oui. Ça fait la une de la presse, du jour au lendemain, blocage, non pas un arrêt, une suspension unilatérale de ma prime rénov sur l'ensemble des dossiers en cours, jusqu'au 15 septembre 2025. Alors, on a deux solutions. Et je vous pose la question, si vous avez l'info, je suis preneur. Soit il y a une méga magouille où il y a un gros truc qui s'est préparé, qui, à mon avis, a nécessité un arrêt ou un gel pour contrôler. Je vous donne juste un chiffre. L'an dernier, Martin Lagan, qui est le directeur de la communication porte-parole de l'ANA, nous avait dit que l'an dernier, ils avaient réussi à pister 220 millions d'euros qui auraient été possiblement détournés et qu'ils ont réussi à rattraper au dernier moment. Peut-être qu'il y a un gros sujet au niveau de l'organisation de l'ANA sur cette opération-là. En tout cas, c'est un cataclysme. Alors, c'est un cataclysme. Pardon. C'est un cataclysme qui met à genoux pas mal d'industriels qui avaient commencé à préparer des dossiers. Mais quand on voit les milliers de chantiers qui étaient en cours, ceux sur lesquels qui étaient en cours d'instruction, dont on ne sait pas exactement s'ils ne seront pas instruits sur l'engagement des travaux, ben bref, c'est un cataclysme au moment même où il y a une crise du logement, on est d'accord. Au moment même où vous, on vous a dit, il faut obliger, vous devez contrôler, etc., etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Je vous propose qu'on passe sur ce dernier chapitre et qu'on écoute dans quelques instants Laurent Permas, directeur éco-transition de Sofinco. On va l'écouter.
Les défis de la transition énergétique, fait d'experts.
Alors, décidément, la clim, c'est pas mon truc. Laurent Permas, on va l'écouter, justement, qui va nous parler du financement qui est un peu le nerf de la guerre de la rénovation énergétique. On l'écoute.
Laurent Permas, bonjour. Vous êtes directeur général de Sofinco Éco-Transition. Merci beaucoup de répondre à nos questions. On va parler d'audit énergétique et de diagnostic de performance énergétique, le DPE, Laurent, parce que ce sont deux outils au cœur de la politique de rénovation énergétique en France. Le DPE, il a été malmené ces derniers temps. Quelle est votre lecture de la situation ?
Oui, bonjour. Le DPE malmené, c'est surtout en fait un DPE qui n'est pas très bien connu des Français. Hein. Une récente étude notamment de l'IFOP avec Sud Radio, qui a interrogé les Français il y a un mois sur leur connaissance d'un DPE et en tout cas de leur étiquette énergétique, ils sont 68% à répondre en fait qu'ils ne connaissent pas leur étiquette énergétique.
C'est énorme.
Et donc le DPE, c'est absolument énorme, plus d'un Français sur deux. Donc forcément, le DPE, certes dans la tourmente, on peut parler aussi de l'audit énergétique, hein, qui est peut-être un peu plus connu, notamment lorsqu'on vend son bien, qui est obligatoire aujourd'hui. Et c'est juste le dispositif en fait essentiel pour bien comprendre déjà si son logement est énergivore ou pas. Et puis surtout, donc l'étiquette, bien évidemment, et puis surtout, en fait, la stratégie, puisque ça, notamment au travers de l'audit énergétique, ça permet de définir, en fait, de façon très concrète, quels sont les travaux prioritaires à mener et le coût moyen, en tout cas, que cela représentera. Donc, c'est juste essentiel pour bien commencer l'adaptation de son logement à un gain énergétique. Ça renvoie notamment au pouvoir d'achat. Ça renvoie aussi à la valorisation en fait de son patrimoine. Et puis, bien évidemment, je pose la question tout de suite hein, de comment je vais financer ces travaux. Donc, il y a énormément de solutions aujourd'hui qui sont en place, à la fois les primes de l'État, les primes publiques, les primes privées hein, au travers des C2E, et puis le financement du reste à charge peut aussi se faire par le prêt amortissable, le prêt éco PTZ. Donc, c'est juste le point de départ, et lorsque vous avez plus d'un Français sur deux qu'ils ne connaissent pas, c'est assez problématique.
Laurent, vous avez parlé du financement. Justement, MaPrimeRénov', qui est l'aide principale à la rénovation énergétique en France, on a vécu un véritable feuilleton cette semaine. On a même entendu que le dispositif était supprimé.
Oui, alors l'autre feuilleton est notamment vendredi avec une déclaration du président de la République hein, qui se dit surpris et en tout cas souhaite continuer à aider les Français pour qu'ils puissent adapter leur logement pour qu'ils soient moins énergivores et surtout que les Français soient moins dépendants tout simplement de la facture énergétique. Alors c'est une suspension, c'est pas un arrêt, hein, dans ce qu'on comprend en tout cas des textes du texte officiel de la ministre du Logement, c'est une suspension pour mieux reprendre en fait fin septembre ces dispositifs. Elle est liée de ce que nous avons en tout cas lu à peut-être.
Voilà, je vais reprendre la main. Vous êtes toujours dans les défis de la transition énergétique. On a écouté Laurent Permas. Ça a été un cataclysme, hein, MaPrimeRénov'. Je voudrais avoir votre avis. Alors, indépendamment de ce que ça provoque, effectivement, au moment où on parle de la restauration de la confiance chez les Français dans la connaissance du DPE, je vous garantis que les effets sont dévastateurs. Mais quand je vous dis dévastateurs, je pars d'ailleurs un peu partout en province. Vous le savez, hein, Président Quentin, ça rue dans les brancards un peu partout, puisque on a dit aux Français, rénover, arrêtez la cuve à fioul, mettez une pompe à chaleur, enfin, vous connaissez ça, Azad, partout, et du jour au lendemain, on a des personnes. Il faut juste rappeler qu'il y a des couleurs qui correspondent aux conditions de capacité pour MaPrimeRénov', et qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de faire l'avance, donc ça veut dire qu'on a jusqu'à fin septembre, à minima, un arrêt total de l'activité et des filières. Sans compter qu'il y a des entreprises qui, à mon avis, n'ont pas forcément la trésorerie pour tenir jusque-là. Moi, j'ai envie de vous poser la question, à votre avis, vous, Assad, qui connaissez bien le sujet, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens-là?
Mais sans surprise, il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient déjà en difficulté. Il faut savoir
que carrément. Nous,
oui, on représente aussi certaines entreprises.
Pourquoi ils ont arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez,
si vous voulez, vous avez un contexte économique. Si on sort de la crise du logement, si on a un regard un peu plus européen, on va dire, ou mondial, il y a une crise économique. Il ne faut pas se le cacher.
Donc, mais pourtant, le budget a été fixé à 3,6 milliards. Pourquoi au bout de 1,8 milliard d'euros, parce qu'à peu près 50% de l'allocation, vous me coupez si jamais je dis une bêtise, avait été consommée. C'est-à-dire qu'on n'a pas consommé la totalité du budget. Et hop, ils le suspendent pour 3 mois et demi.
Si vous voulez, il doit y avoir plusieurs raisons à cela. Premièrement, il ne doit pas y avoir d'argent dans les caisses, je pense, très certainement. Ça doit être une des raisons. La seconde raison, c'est qu'il n'y a peut-être pas la population, les moyens humains nécessaires pour traiter des dossiers. Ça, c'est une autre raison. Et il y aurait une troisième raison, c'est potentiellement peut-être un excès de dérive.
C'est ce qu'on imagine.
De fraude, qui fait que la sagesse et la prudence de l'État, hein, comme ils ont décidé, était peut-être plus de mettre un frein clair et net le temps de traiter tout ça, extraire tous ces dossiers frauduleux, ou du moins tuer les têtes de réseaux, si c'est des réseaux très organisés. Ça peut être encore une des raisons. Mais en attendant, encore une fois, hein, comme c'est le cas pour le DPE, c'est toujours les honnêtes personnes qui payent pour les déviants, les fraudeurs. Quoi.
Président.
Moi, j'étais abasourdi quand j'ai entendu ça.
Aussi,
et puis, mesure totalement incompréhensible. Alors, incompréhensible parce que on n'arrête pas une machine en marche.
Moi, j'ai cru qu'ils avaient consommé tout. Alors, je vais vous dire, j'étais naïf. Hein.
Non,
quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, ça a été victime de son succès. D'ailleurs, Anaïs Le Meur l'a dit, et à mon avis, C'était plutôt une erreur. Elle l'a dit à l'Assemblée. Hein. Vous avez dit victime de son succès. Vous savez, quand elle a fustigé l'opposition en disant vous voulez qu'on en arrête.
Bien évidemment, ma prime Rénov' est victime de son succès parce qu'il y a de plus en plus de dossiers.
Oui.
Mais c'est pas pour autant.
Et on n'a pas consommé la location.
Pas pour autant qu'on arrête une machine en marche et notamment le fait qu'il y a tout un écosystème qui est mobilisé. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont au rendez-vous, qui sont structurées, organisées pour accompagner la rénovation énergétique qui va jusqu'en 2050. Et là, soudainement, on stoppe. Et on stoppe sans explication. Moi, je comprends qu'il y ait, je dirais, du retard dans l'instruction des dossiers. Je comprends effectivement qu'il faut se remettre à jour, etc. Mais là, au moins, c'est une bonne occasion pour embaucher des fonctionnaires pour rattraper le temps perdu. Et là, on met effectivement des gens en passe pour rattraper et instruire les dossiers. Je crois qu'il y a là une part d'amateurisme à la fois dans la mise en application du dispositif, une absence effectivement de connaissances et de précisions, une structure qui a été submergée et débordée aussi par des DPE frauduleux. Alors moi je vais aller plus loin. C'est que l'annonce ne date pas d'hier. Je le ressortirai prochainement. Il y a un journal bien connu qui, il y a 2 ans, avait estimé la fraude à 2 milliards par an. Oui, c'est quelque chose. Il y a déjà eu des cris d'alerte.
C'est énorme.
Donc aujourd'hui, je crois que c'est le contrôle de l'État à la fois sur les structures, notamment, et notamment, mais un audit. On a des moyens, puisque ça fait partie de la politique de la France, politique de rénovation énergétique. On met en place des moyens et on n'arrête pas un système qui fonctionne. On le poursuit et on le renforce.
Olivier Sapin.
Je reviens sur 2 points. Premier point, la façon de l'annoncer. Catastrophique. Je suis désolé. Quand on a des difficultés, on peut le prendre, on peut le comprendre,
non mais surtout,
on peut l'expliquer.
Non mais surtout,
la façon dont on l'annonce, c'est inadmissible.
Olivier Sapin, c'est la moitié du budget qui a été consommé. Vous êtes d'accord?
Pas du tout. Alors non.
Il reste la moitié.
Mais je suis désolé. En droit français, quand un budget, enfin, l'élu que vous êtes, Lionel, vous nous direz, en droit français, quand le budget a été fixé, il est fixé. On ne revient pas dessus.
Alors,
donc, c'est pas une loi de finances complémentaire. Mais
moi, je vais quand même revenir sur le problème comptable. Je suis désolé. Consommer du budget, ça ne veut pas dire avoir fait les dépenses et sorti l'argent. Ça veut dire qu'on a enregistré un certain nombre de dossiers dans lesquels on a donné effectivement l'accord sur le versement de la subvention. Est-ce que ça veut dire que l'on a versé la subvention ? Non ! Et c'est là où je reproche au gouvernement de se tromper entre la consommation et la dépense. Oui, il y a eu plus de dossiers. Oui, il y a eu plus de notifications de subvention. Tant mieux. Et c'est une réalité.
Tant mieux.
Parce que on va dans le bon sens et ça commence à prendre dans les immeubles collectifs, que ce soit les copropriétés ou dans d'autres grands immeubles. Et c'est vrai, c'est maintenant. Oui, est-ce qu'ils ont versé l'argent ? Non. Et c'est là ce que je reproche à l'ANA aujourd'hui, c'est d'être en retard sur le versement des subventions et des aides. Il devait effectivement, pour certains immeubles, le verser il y a déjà 6 mois ou 9 mois. On a en moyenne 1 an de retard. Donc vous dire qu'aujourd'hui ils doivent verser les sommes des dossiers d'il y a 1 an ou d'il y a 1 an et demi, c'est la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui on a ce problème ? C'est clair. Est-ce qu'ils l'ont pris du mauvais sens ? Aucun doute. Je rappelle une chose, commission d'enquête sur la rénovation énergétique, c'était il y a 2 ans, engagée par le Sénat, suite à un rapport de qui ? Bah de la Cour des comptes.
Bien sûr.
Et bien évidemment, Cour des comptes a dit 2 choses. 1, la partie de ce qui a été utilisé de façon frauduleuse provient de la partie des maisons individuelles, mais pas des copropriétés. Et ça, je voulais le rappeler. Pourquoi ? Parce que c'est venu sur ces parties-là,
merci,
avec des fausses factures, avec des entreprises d'argent et certains points.
Merci Olivier Sapin, effectivement. Alors, on avait estimé la fraude, effectivement, qui a été stoppée l'an dernier, in fine, en rattrapant environ à 220 millions d'euros. Ça laisse augurer de ce qui a pu passer au travers des mailles du filet. Désolé, vous êtes le seul politique sur le plateau, mais est-ce que vous étiez surpris ou vous aviez l'info ?
J'étais surpris de l'apprendre par la presse, surtout avec un gouvernement qui nous dit qu'il va associer les parlementaires à toutes les décisions qu'il doit prendre.
Donc oui,
ça, c'était déjà la première des surprises mardi matin, puisque tout le monde, bien sûr, le téléphone n'a fait que sonner. Ceci dit, j'avais quand même eu quelques alertes, puisque déjà au mois de mai, j'avais déposé une question écrite qui est au journal officiel où j'avais interrogé le ministère du Logement, sachant où en était la consommation de MaPrimeRénov'. Je sentais déjà qu'il y allait avoir des tensions, mais je pensais qu'on les aurait en fin d'année, puisqu'on savait que les demandes faisaient ça, le budget faisait ça, et dès la fin 2024, je l'avais écrit d'ailleurs, j'avais dit on n'aura pas suffisamment de budget, et le gouvernement s'était engagé à dire en cours d'année, on rajoutera de l'argent. Donc je pense qu'on a une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ils ne vont pas en rajouter, puisque moi j'ai interrogé le ministre de l'économie sur Lombard mercredi soir, il m'a clairement dit que pas de PLFR. Et je pense qu'en plus, ils veulent geler une partie des 3,6 milliards. Bon, voilà, je pense que
d'accord, vous êtes d'accord qu'il n'y a que juste la moitié qui a été consommée à l'heure d'aujourd'hui?
Oui, mais ils vont geler une partie sur les 3,6 milliards, comme ils font chaque année, 10, 15, d'accord. 20%, je ne sais pas combien. Ils vont geler une partie du budget, comme on
Assad
fait.
Assad El Hayage dit qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. En fait, vous confirmez qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse.
Mais je pense qu'après, c'est compliqué. Parce que moi, je pense à toutes ces entreprises, à tous ces gens qui attendent de recevoir les aides.
C'est catastrophique.
Mais aujourd'hui, ce qui ne verse pas, c'est Bercy. L'ANA transmet à Bercy, c'est Bercy qui transmet les aides. Et c'est là que ça n'arrive pas. Il y en a qui attendent depuis 6 mois, 9 mois. Et effectivement, il y a des entreprises, moi j'en ai chez moi, des artisans qui du coup se retrouvent en très très grosse difficulté. Ils sont obligés de mettre la clé sous la
porte. Ils vont couler, on est
d'accord. Donc il y a un gros problème aujourd'hui de fonctionnement et de versement des aides. Et pourtant, autant j'ai milité pour défendre l'organisation de l'ANA au niveau national, toujours, je commence à m'interroger, parce que début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu déjà un blocage. Le site n'est pas accessible. Une fois qu'il est accessible, il est surchargé, etc. Après, on nous dit, ah, mais finalement, non, on a laissé passer trop d'eau froide et tout. Donc, je suis en train de me demander s'il ne faut pas, et pour répondre à ce que vous avez dit, c'est-à-dire avoir vraiment des travaux qui correspondent à chaque territoire, revenir sur une forme de décentralisation de ces aides qui est défendue par certains depuis longtemps. Bon, moi, je pensais qu'une vision nationale est importante, mais franchement, je suis en train de me dire, est-ce que la solution, c'est pas ça, travailler avec les collectivités locales, définir un plan d'action en disant, ben, chez vous, c'est de l'isolation, chez vous, c'est d'autres travaux qu'il faut effectuer, etc. Comme ça, au moins, une vraie approche territoriale des travaux à réaliser, et on vient, je dirais, abonder éventuellement des subventions des collectivités territoriales.
Pas bête
peut-être qu'on peut démarrer et lancer ça. Enfin, moi, je lance ça, mais enfin, beaucoup le disent depuis pas mal d'années, je pense qu'ils commencent à avoir raison. Et puis, globalement, pour nous comme pour vous, c'est un petit peu, excusez-moi, je vais être un petit peu taquin, mais c'est un petit peu comme la profession d'un diagnostiqueur. On a trois ministres en face. Ce matin, Amélie de Montchalin parle. La semaine dernière, il y avait Éric Lombard. On a Valérie Létard. Chacun y est allé toute la semaine dernière avec des conditions et des calendriers différents. Donc,
c'est quand même un petit peu compliqué. Je crois que la décision a été prise par Lombard. Hein, n'a pas été prise par Valérie Létard.
Et revenir au certificat d'économie d'énergie qui n'emprunte pas d'argent public, qui sont financés exclusivement par les pollueurs.
Heureusement qu'on a encore... Alors justement, on peut donner un peu d'espoir à ceux qui nous écoutent sur les certificats d'économie d'énergie. Est-ce que ça va permettre de compenser les problèmes de MaPrimeRénov'?
Qui ne sont pas de l'argent de l'État, mais c'est quand même quelque part un impôt indirect, puisque c'est des factures que l'on paye à travers, effectivement, les entreprises énergétiques qui prélèvent dans leurs factures et qui permettent de financer.
Est-ce que ça serait une solution?
Non, ce n'est pas une solution. Je rappelle que quand vous avez les notifications de MaPrimeRénov', vous n'avez pas le droit au C2E. Donc attention, il y a certains dossiers,
pas avoir droit aux deux.
Beaucoup de dossiers, vous n'avez pas le droit de cumuler. Dans certains, oui, parce que vous arrivez à certaines choses complémentaires, mais dans certains, pas du tout.
On ne veut pas réformer ?
Et la réponse, c'est, nous, on a demandé à ce qu'on puisse cumuler, on nous a dit, mais non, on ne pouvait pas obtenir et l'argent d'un côté et le C2E de l'autre. Je dis, je comprends, mais la question, c'est si on arrête d'un côté l'un et qu'on ne peut pas prendre l'autre, ça ne colle pas. Donc là, sur un système de blocage complet.
C'est quoi la solution à ça?
Nous, du moins, j'ai fait d'experts, on a pareil, hein, ce sont toujours des contributions de nos adhérents qui viennent de... pas exclusivement du diagnostic immobilier, mais par exemple de l'univers des C2E qui proposent, pourquoi pas, soit cumuler, soit compenser, redébloquer un peu ces certificats d'économie d'énergie qui ont vu leur pouvoir amoindri par la création du guichet unique de l'ANA et de MaPrimeRénov'. Donc, chez nous, c'est une des pistes, c'est une des solutions, du moins. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est sorti, je crois, hier ou aujourd'hui dans les Échos, qui reprend exactement, trait pour trait, ce que je viens de dire là. Donc, c'est une des pistes.
On nous pose une question, président Safar. Est-ce que pour les copropriétés, c'est pareil, MaPrimeRénov', copropriété?
Alors,
non, ce n'est pas suspendu pour les copropriétés.
Alors, officiellement, ce n'est pas suspendu jusqu'à ce que notre ministre des Finances le dise.
Donc, je vais être donc ça veut dire que les copropriétés...
Nous n'avons pas l'argent.
Alors, c'est important ce que vous dites. Donc, vous me dites, Lionel également, donc les copropriétés qui entament des travaux de rénovation énergétique peuvent continuer à instruire leur dossier?
Alors,
Lionel Causse, vous avez l'info.
Ça a été écrit, mais je vous dis, encore ce matin, on a eu une troisième ministre qui a donné un autre calendrier. Donc, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas m'engager au nom du ministre. C'est à eux d'écrire et de co-signer, puisque s'ils sont trois sur cette affaire-là, à eux de co-signer. Après, je veux dire, il y a quand même une des solutions. Il faut rendre quand même un petit peu les idées à ceux qui les ont portées. Une des solutions qui nous permettrait d'y voir plus clair, c'est ce qui a été proposé par Dominique Estrosi-Sassone au Sénat. C'est une autre programmation sur le logement qui pourrait prendre tous les enjeux, effectivement, de rénovation, et qui nous dirait les montants, comment on s'organise, et plusieurs années. C'est une des solutions pour avoir la visibilité sur plusieurs années. Donc oui, là, cette loi de programmation, elle est aujourd'hui nécessaire sur le logement.
Oui, vous voulez rajouter rapidement?
Un point important, on a essayé de déposer un dossier ce matin, hier et ce matin, sur MaPrimeRénov'CoPro, pour une copropriété dans laquelle on a voté les travaux la semaine dernière. Hier matin, on n'a pas réussi du tout à l'enregistrer.
D'accord.
C'est-à-dire que je n'ai même pas eu un numéro pour pouvoir rentrer toutes les informations. Donc aujourd'hui,
la suspension, c'est au 1er juillet.
Je sais, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc la question, c'est entre ça marche et la suspension du 1er juillet, j'ai un En revanche, j'ai reçu des notifications de subvention sur les dossiers qu'on a rentrés il y a deux ou trois mois, et j'ai reçu effectivement ces notifications. Mais ça ne veut pas dire que j'aurai l'argent. Ça veut dire simplement qu'on autorise.
Merci à tous. Bien évidemment, c'est un sujet dont on va beaucoup parler. Et d'ailleurs, nous constatons d'ailleurs avec Assad que c'est la raison d'être de cette collection qui est bien nécessaire pour vous rassembler tous et avoir de l'influence, que ce soit au niveau des élus, élus de la nation, élus du Parlement, élus locaux et acteurs de l'immobilier, qu'ils soient syndiqués ou non, parce que c'est un vrai sujet. Un immense merci à vous, Loïc Quentin, président de l'AFNIM. Je sais que vous répondez toujours présent à nos invitations. Merci de parler vrai, parce que ça nous fait du bien pour le métier. Un immense merci à Olivier Safar, président de l'UNIS du Grand Paris, également, pour votre franc-parler et votre technicité. Un immense merci à Lionel Causse, député de la 2e circonscription des Landes. Merci pour ce que vous faites pour la profession. Vous êtes un grand spécialiste du logement et vous avez l'avantage, je le répéterai jamais assez, puisque nous aimons beaucoup les maires de France, d'avoir été maire. Donc, vous savez ce que c'est que d'être maire. Ça serait bien que certains députés qui n'ont jamais exercé de mandat local puissent le faire parfois. Ça leur permettrait d'avoir une approche de terrain un peu plus... Voilà, c'est un autre débat. Un immense merci également à Assad El Hayach Moueb, cofondateur et président de FedExpert Europe à Bruxelles. Vous êtes porte-parole et ambassadeur de FedExpert France. Merci pour ce que vous faites. Vous avez un gros enjeu. C'est vous qui allez faire la conclusion pour ce premier numéro. Je vais vous donner d'ailleurs rendez-vous très vite pour un nouveau numéro des défis de la transition énergétique. Là, nous avons parlé bien évidemment du diagnostic du performance énergétique, des défis, des objectifs, de son évolution. On en parlera de plus en plus. C'est la raison d'être. On sera sur tous les événements également avec les équipes de FedExpert pour en parler. La conclusion, c'est à vous.
Ouais, aujourd'hui, c'est très simple. Hein, on a quatre gros dossiers. C'est la compétence, donc l'excellence du métier, hein, la lutte contre les dérives et les fraudes, qui semblent rentrer dans l'ordre avec les nouvelles réformes qu'on attend. On a le souci lié au moteur de calcul. Et enfin, la structuration de la profession. Et on se positionne en tant que rassembleur de tous ces acteurs.
Un grand enjeu qui est fixé à cette formidable initiative qui est portée par FedExpert sur le plan d'ailleurs européen, parce que je rappelle que vous êtes également en Europe avec Bruxelles, puisque ce qui nous touche en France touche également l'ensemble du bâti européen. Un merci à Théo, merci à Baptiste qui sont à la régie, merci à notre super producteur Grégoire Daricot qui est derrière effectivement et qui nous a préparé cette émission. Merci à nos invités qui n'ont pas pu être présents mais qui ont fait le reportage, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, Daniel Labaronne, député de la 2e circonscription d'Île-de-France, d'Indre-et-Loire, plus exactement, Laurent Permas, directeur éco-transition pour Sofinco. On va se retrouver bien évidemment pour un prochain numéro. Le podcast est à récupérer sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à liker et à commenter, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. D'ici là, prenez soin de vous.
Les défis de la transition énergétique, une émission proposée par FedExpert. À réécouter et télécharger sur le site et appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.